Vous écoutez RTL.
Il faut que je vous signale qu'à 150 km de New York, pendant le week-end, un festival de musique pop a rassemblé entre 300 000 et 400 000 jeunes gens, des hippies pour la plupart.
La curiosité est un vilain défaut.
De la musique, de la drogue, des malades, des blessés et même des morts.
Sur RTL,
Georges Walter, au cours de son journal de 19h, vous racontera et vous commentera ce week-end un peu ahurissant.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Et on va rétablir la vérité sur Woodstock. 15-18 août 1969, casting de rêve. Jimi Hendrix, Janis Joplin, les Who, Jefferson Airplane, Santana, Joe Cocker, etc., 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 parce qu'il y a eu 32 groupes. On découvre l'histoire de ce festival de légende avec Julien Bitoun. Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes musicien, écrivain, prof à Sciences Po. On fête les 50 ans de Woodstock. Qu'est-ce qu'il en reste, tiens, aujourd'hui? On commence par ça.
Il en reste tout ce que les autres festivals de musique ont pris entre-temps. C'est-à-dire que un festival comme Coachella ou même à moindre échelle Rock en Seine.
C'est en Californie, Coachella, Coachella, ça?
Oui. Tout à fait. Ouais. Ce genre de festival ne serait pas les mêmes s'il n'y avait pas eu Woodstock pour montrer l'exemple avant.
C'est aussi le symbole de la génération hippie.
Évidemment, c'est le sommet de la génération hippie avant la descente qui suit directement après.
Alors bien sûr, on va raconter dans le détail comment Woodstock, ce festival, a vu le jour et tous les obstacles qu'il a fallu contourner. Ça fait le sel de l'histoire. Mais d'abord, dans quelle partie des États-Unis, on est ?
Alors, on est dans l'État de New York. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le festival de Woodstock ne se passe pas à Woodstock.
Ah, ça commence bien.
C'est ça. Vous bossez ensemble ?
Oui, c'est ça. Et on dit les mêmes mots, même moment, c'est pas possible. Ça fait trop longtemps qu'on bosse ensemble. Donc, ouais, ça se passe où ?
Ça se passe dans une ville qui s'appelle Bethel, ouais, qui est aussi dans l'État de New York, mais qui est à une heure et demie à peu près de la ville de Woodstock.
Il y a combien de personnes qui vont participer à ce festival ?
500 000 spectateurs.
C'est ce qui était prévu ?
Absolument pas. Ils avaient prévu à peu près 10 fois moins.
Au départ, ça devait être payant, c'est ça ?
Au départ, c'était 7$ pour la journée, 18 pour les 3 jours. Ouais. Et puis en fait, finalement, face à l'afflux colossal de public, ils ont été obligés de rendre le festival gratuit, sachant que de toute façon, les gens passaient par les grilles et trouvaient des moyens d'entrer gratuitement avant. Et face aux embouteillages sur tout l'État, ils ont été obligés de rendre le festival gratuit pour fluidifier un peu le trafic.
Alors, vous publiez, Julien Bitoun, l'histoire de Woodstock dans un très beau livre. Il est vraiment magnifique, beau, grand, gros. Enfin, il a toutes les qualités. Woodstock Live, c'est publié aux éditions Grunt. Alors, je reviens juste, vous avez dit à l'instant, parce que pourquoi ça s'appelle Woodstock ? Si c'est pas à Woodstock, pourquoi on a gardé ce nom ?
Parce que c'était le nom d'origine, c'était la ville d'origine qui était envisagée. Et tout simplement parce que c'est le nom qu'on donne à cette région-là, qui est une région très boisée, un peu élevée en termes d'altitude, et vraiment coupée de la civilisation alors qu'on est à quelques heures de New York.
Parce qu'en fait, c'était Woodstock, ce festival, c'est comme une sorte d'appel d'offres pour l'organiser, c'est ça ? On a proposé à plusieurs...
Ça commence par une petite
plusieurs
annonce.
Plusieurs villes, plusieurs organisateurs.
Il y a
eu
une annonce dans le Wall Street Journal 2 ans avant, en 67. Deux jeunes hommes au capital illimité cherchent des projets à financer.
Donc c'est ça,
le genre d'annonce complètement délirante, comme ça, ne mettez pas ça sur le bon coin.
Qu'on aimerait voir aujourd'hui, oui.
Mais c'était quoi, des héritiers ?
C'est ça, exactement. Et des hippies qui voulaient pas reprendre la boîte de papa, mais qui avaient beaucoup d'argent. Et du coup, Michael Lang et Artie Cornfield ont répondu à cette annonce. À l'origine, ils voulaient monter un studio à Woodstock, parce que c'était vraiment l'endroit où la scène musicale était en train de se déplacer depuis le centre de New York, le Greenwich Village, où c'était au début des années 60. Là, ça commençait à bruisser à Woodstock, et finalement, face aux complications de monter un studio, ils ont décidé de monter un festival.
Est-ce que ça a été plus facile de monter le festival de Woodstock ?
Alors, sinon ça aurait lieu à Woodstock.
C'est ça, celui qu'ils avaient en tête était facile à monter, celui qu'ils ont fini par monter, non.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui est compliqué en fait dans l'organisation ?
Il faut
réunir 32 groupes déjà, ça c'est fou.
Alors les groupes, ça c'est pas forcément le plus compliqué, puisque par définition les musiciens veulent jouer, et à partir du moment où ils sont dans le coin, ils peuvent faire le détour sans trop de problèmes.
C'est trouver le lieu qui a été compliqué.
C'est trouver le lieu, c'est organiser la scène, c'est organiser l'équipe technique, c'est avoir suffisamment de médecins, c'est avoir suffisamment à manger.
Quel est le fou qui va prêter son champ pour organiser?
C'est un fermier qui s'appelle Maxi Asgur, dont on se souvient surtout comme l'homme qui a prêté son chant pour Woodstock.
Mais son chant, il a une particularité, c'est
absolument,
ça ?
Absolument, c'est une cuvette. Et du coup, ça tombait très bien, puisque ça permet tout simplement de voir la scène d'assez loin.
Pour la pluie, c'est moins bien.
Ouais, pour la pluie, c'est plus emmerdant.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un orage gigantesque à Woodstock. Ça fait partie de la légende. Vous nous l'avez dit, Julien Bitoun, les organisateurs prévoient d'accueillir 50 000 personnes. Bon, ben, il y en aura 10 fois plus. Les secrets de Woodstock, on va revivre ça avec vous dans un court instant sur RTL.
14h-15h.
Ce fut sans aucun doute le festival le plus important dans l'histoire de la musique.
With a little help from my friends. Remember it.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nous allons en apprendre un peu plus sur les 3 jours de paix et de musique qui ont été Woodstock.
Sur RTL.
Tous joués à Woodstock, dont Joe Cocker, le festival de légende, que ce soit pour les musiciens, les techniciens et bien sûr les 500 000 spectateurs, ils peuvent encore dire 50 ans après j'y étais. L'écrivain et prof d'histoire Julien Bitoun nous raconte ces 3 jours et demi de folie sur RTL. Alors il y a ceux qui y étaient bien sûr, et puis ceux qui l'ont manqué. C'est quoi les grands groupes qui ont loupé le coche?
Alors il y en a eu beaucoup, le plus évident c'est Bob Dylan, dont l'absence est choquante parce qu'il habitait à quelques kilomètres du lieu où a eu le festival.
C'est quoi son excuse à Bob Dylan?
Son excuse, c'est que tout simplement, il faisait l'ermite à l'époque. Mmh. Depuis son accident de moto de 66, il ne voyait plus le public. Et donc, il est resté dans sa cave à jouer avec ses copains.
Mais il y a aussi les Stones, les Doors, Zappa, Clapton. Ils n'étaient pas invités ou ils ont refusé?
Tous ont été contactés et invités. Tous avaient une bonne excuse. Zappa, parce qu'il n'aimait pas les hippies, ce qui est effectivement une bonne raison de ne pas venir à Woodstock. Ouais. Les Stones, parce qu'ils étaient occupés ailleurs et surtout qu'ils voulaient monter leur propre festival. On y reviendra. Et puis, un groupe comme Led Zeppelin, parce qu'ils voulaient être placés plus haut sur l'affiche et qu'ils s'imaginaient ne pas être assez mis en valeur dans un festival comme Woodstock.
C'était qui le premier sur l'affiche de Woodstock ?
Il n'y avait pas vraiment de tête d'affiche. Le plus gros artiste à l'époque, c'était Hendrix, tout simplement. Mmh. Et après, il y a des groupes qui carrément ont annulé. Il y a 2 groupes. Il y a Iron Butterfly qui a annulé parce qu'ils n'avaient pas d'hélicoptère. Et il y a Jeff Beck qui a annulé parce que c'est Jeff Beck.
Ouais. Ah, tiens, puisqu'on parle de... c'est drôle ça. Puisqu'on parle de l'affiche... qui l'a réalisé et est-ce qu'il est multimillionnaire aujourd'hui? Parce que cette affiche, elle a été...
Vous nous l'a rappelé d'ailleurs.
Elle a été reproduite un nombre dingue de fois. Il y a un... Alors, est-ce que c'est l'oiseau de la paix, si je me souviens?
Oui, bien sûr. C'est une colombe posée sur une tête de guitare. Ouais. Et c'est une affiche, effectivement, qu'on a vue sur des milliers de t-shirts. Là, il y a une guitare qui sort cette année avec l'affiche dessus et ainsi de suite.
Sa créatrice ou son créateur est riche aujourd'hui?
Arnold Skolnick, ouais. Qui a gagné $15 pour cette affiche. Voilà. Alors, c'est $15 de l'époque, donc c'est au moins l'équivalent de $50 à l'heure actuelle. Mais voilà, aucun droit dérivé.
D'ailleurs, est-ce que, Julien Bitoun, les groupes ou les artistes ont gagné beaucoup d'argent en venant participer à Woodstock, au festival?
Alors, face à la gratuité du festival, la plupart n'ont pas été payés. Donc, ils attendent encore leur chèque de Woodstock.
Mais en même temps, est-ce qu'ils ont pris conscience assez vite que tous, là, les organisateurs, les groupes et le public, qui vivaient un truc exceptionnel?
Une fois que le concert a commencé, immédiatement, tous les news flash autour faisaient état des milliers de kilomètres de bouchons, du public colossal, etc. Mmh. Et après, ce qui est génial, c'est que ces groupes-là n'attendaient pas du tout une marée humaine pareille.
Mais oui, c'est ça qui est dingue. Imaginons, on est un mois avant le début de ce festival de Woodstock 69, donc mi-juillet. On peut dire quoi? Rien n'est prêt?
Ah, rien n'est prêt du tout. Ils n'ont pas l'endroit. ils ont à peine les groupes. Ils en ont contacté certains, mais aucune confirmation définitive. Mm-hmm. Donc vraiment, c'est du bricolage fabuleux. Et c'est même un miracle que ça se soit bien passé, étant donné la manière dont ça a été organisé.
Et puis Julien Bitoun, il faut nourrir aussi ces 50 000, parce qu'on pensait qu'il n'y en aurait que 50 000 spectateurs, qui vont être finalement 500 000.
C'est ça.
Qu'est-ce qui était prévu à l'origine?
Alors, il y avait quelques stands de burgers sur place, ouais. Qui du coup, face à l'affluence, ont quadruplé leur prix, ce qui donnait un burger à $1. Donc, pour vous donner une idée, le créateur de l'affiche aurait pu s'acheter 15 burgers avec son salaire.
Et, 15 burgers de Woodstock.
Woodstock.
Oui, mais on pouvait pas nourrir tout le monde. Il y a eu 500 000 personnes, il y a eu des affamés, des gens qui sont évanouis de faim.
Alors, heureusement, non. Il y a eu un grand élan de solidarité de la part des habitants des environs, notamment une association de mères juives qui a fait des milliers de sandwichs en un temps record.
C'est drôle.
Et génial, des fermiers alentours qui ont passé des céréales, des graines, etc.
Mais ça a suffi pour 500 000 2000 personnes.
C'était des hippies, donc ils mangeaient pas tellement.
Ah oui, ils se lavaient pas trop non plus d'ailleurs.
En revanche, ils consommaient 2-3 substances, on va peut-être raconter ça dans un court instant. Sur RTL, je rappelle Julien Bitoun que vous publiez Woodstock Live aux éditions Grunt avec voilà, des photos magnifiques, des souvenirs de l'époque. On peut feuilleter ce livre avec le... il est chronologique, c'est ça, on avance depuis le premier concert.
L'idée, en fait, c'était de replacer la musique au centre, mm-hmm. et de vraiment faire vivre le déroulé du spectacle au lecteur.
Immerger dans Woodstock, si on a pas eu la chance.
En mettant même carrément chaque setlist de chaque concert. Bon, alors, que vraiment on puisse réécouter ça chez soi.
Quand on parle de Woodstock, on a l'image évidemment de hippies nus et drogués. Est-ce que c'est une caricature ? Réponse dans un court instant sur RTL.
Thomas Hugues. Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
À la fin d'une décennie turbulente, la paix, l'amour et la musique ont régné en maître absolu pour une toute dernière fois.
Sur RTL.
Can Heat, Les Who, Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Santana, Joe Cocker, j'en passe, et des meilleurs 32 groupes en tout qui jouent pendant 3 jours et demi devant un demi-million de personnes. Voilà, c'est ça, c'est le festival de Woodstock. C'était il y a 50 ans. Notre invité Julien Bitoun, je rappelle que vous êtes musicien, prof d'histoire, écrivain, vous nous dévoilez les secrets de Woodstock. Qu'est-ce qui réunit tant de monde? Parce que bon, ok, c'est un événement, ok, c'est un concert, mais il y a une promesse qui va au-delà de la musique, c'est ça?
Il y a tout simplement un idéal hippie qui trouve son sommet à ce moment-là. C'est difficile de dire exactement ce qui a fait que ça s'est passé à ce moment-là et pas avant, parce qu'il y a eu le festival de Montreux en 67, et 67 est vraiment considéré comme le sommet du flower power. Mmh. Mais je pense que justement, face au succès du festival de Montreux, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « celui-là, je ne vais pas le rater ».
D'accord.
Et du coup, ils se sont tous rattrapés sur Woodstock.
Alors, quand on voit les photos de Woodstock, on a l'impression que tout le monde est à poil. Hein. C'est pas compliqué, c'est un peu exagéré.
Alors, évidemment, dit comme ça, bien sûr.
Ouais.
Mais il y a une certaine légèreté par rapport à ça. Alors déjà, il fait très chaud. Hein. Faut pas oublier qu'on est en août dans une cuvette sans aucune ombre. Mais tout simplement, il y a un certain état d'esprit qui consiste à considérer que ça n'est pas important.
Donc on montre son corps. Est-ce qu'il y a des gens qui font l'amour dans le public de Woodstock, devant tout le monde?
Évidemment, mais
c'est ça l'esprit.
C'est l'esprit, et en même temps, justement, l'esprit veut que ce soit pas ça qui est important. La musique passe avant tout, et ça, en fait, c'est une manière de vivre, mais qui n'est pas revendiqué comme quelque chose de provocateur.
Est-ce que tout le monde était drogué dans le public de Woodstock?
Alors, il y en avait beaucoup.
Non-fumeurs savent se dire, c'est ça.
Il y en avait beaucoup, mais de la même manière, ça faisait plus partie du décor et de l'état d'esprit. Voilà.
Qu'est-ce qu'on consommait à Woodstock?
Alors, il y avait évidemment du LSD.
Pourquoi évidemment?
Parce que c'est la drogue psychédélique par excellence.
Ouais. Et c'est la drogue vraiment à la mode dans les années
60-70. C'est ça, c'est la drogue emblématique du mouvement hippie, c'est les acid tests de Ken Casey, etc. Mmh. Donc c'est vraiment cette drogue qui est censée ouvrir la perception et atteindre un niveau de conscience supérieur. Après, il y a aussi évidemment déjà de la coke et de l'héroïne.
Et de la marijuana, beaucoup, c'est sans doute celle qui est consommée prioritairement et massivement.
Ça, c'est pas de la drogue.
Ah d'accord, on n'en parle même plus. Ok. Très bien, j'ai compris. Alors sur scène aussi, les groupes ne carburent pas tout à fait à l'eau claire. Un exemple avec Santana, on va écouter d'abord le morceau d'ouverture. C'est Waiting, je crois.
C'est ça.
Donc c'est un instrumental avec Carlos Santana à la guitare qui carbure. Alors on ne sait pas trop, il carbure à quoi? À la mescaline, au LSD
Alors selon les interviews, c'est pas la même version. Mmh. Ce qui prouve une fois de plus la fameuse phrase « Si vous vous souvenez de Woodstock, c'est que vous n'y étiez pas
». Formidable.
Et effectivement, alors mescaline, c'est assez logique puisque c'était vraiment la drogue.
C'est
un dérivé de cactus en fait. Et qui est reproduit de façon chimique.
C'était ce que les chamans utilisaient,
c'est le peyote, etc. Mm-hmm. C'est le même esprit. Donc c'est une drogue initiatique qui était très à la mode à San Francisco, d'où vient Santana. Mm.
Et ça provoque quoi, mescaline, LSD, comme vision?
Des hallucinations. Mm. Là, par exemple, il raconte qu'il voyait...
Il voyait.
On va savoir ce qu'il a raconté, pardon. Carlos Santana, quelques années plus tard, ce qu'il a ressenti sur la scène à Woodstock.
I remember that I was... under the influence of LSD.
Je me souviens que j'étais sous l'influence du LSD. Et là, ça m'est revenu du genre, mais pourquoi j'ai pris du LSD avant le concert?
Before I went on, you know, the guitar neck.
Il mange de ma guitare me paraissait comme un serpent électrique. Il ne restait pas droit. C'est pour ça que je fais des têtes bizarres quand je joue. Parce que j'essaie de faire en sorte que le serpent reste droit pour que je puisse continuer à jouer. Et je me souviens aussi que je me suis dit, mon Dieu, je ne referai plus jamais ça.
Carlos Santana qui est complètement shooté aussi à cause de l'organisation légèrement Absolument. Chaotique du festival de Woodstock. Pourquoi ? Alors,
aucun artiste de Woodstock n'a joué à l'heure qui était prévue pour lui.
Avec combien de retard ? 10 minutes, 15 minutes, une heure ?
Non, ça se joue en dizaines d'heures pour certains.
Mais pour Santana, c'est trop tôt.
Alors
c'est
pour
ça.
Santana, effectivement, son créneau s'est débloqué de façon inattendue. En gros, ils sont arrivés sur le site du festival à 11h et ils étaient censés jouer à 20h, donc le temps de monter et de redescendre avec la mescaline. Sauf que on les a mis sur scène à 14h, du coup en pleine montée.
Du coup, ils jouaient avec un serpent. Est-ce qu'on peut dire que c'est en quelque sorte la naissance du groupe Santana, ce concert à Woodstock?
C'est l'explosion du groupe Santana, effectivement. C'était l'un des quelques groupes complètement inconnus qui ont eu la chance de se retrouver sur l'affiche de Woodstock et qui ont explosé grâce au festival, mais encore plus grâce au film qui est sorti l'année suivante.
Alors, on a évoqué rapidement tout à l'heure cet orage gigantesque des pluies diluviennes dans la cuvette de Woodstock. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. C'est ce qu'on va vous raconter dans un court instant sur RTL.
RTL.
Depuis le festival de Woodstock, 500 000 personnes, une ambiance délirante, des recettes énormes, organisateurs et jeunesse rêvent d'en organiser d'autres.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais depuis la Maison-Blanche jusqu'aux autorités locales, on redoute désormais ce genre de rassemblement explosif, parfois de la jeunesse.
C'était il y a 50 ans, du 15 au 18 août 1969, le festival de Woodstock avec notamment Crosby, Stills, Nash & Young, le groupe sur la scène de Woodstock, et plein d'autres groupes et d'artistes. Et l'écrivain et prof d'histoire Julien Bitoun nous raconte ces 3 jours et demi de musique. Alors il y avait évidemment de la très bonne musique, il y avait de la drogue, il y avait des gens qui faisaient l'amour, et aussi un temps déplorable, parce que l'orage fait partie, justement il y avait eu beaucoup d'argent échangé, l'orage fait partie de la légende de ce festival.
Bien sûr, au point que le slogan depuis 3 jours de paix et d'amour est devenu 3 jours de paix et d'amour et debout.
Parce que ça démarre tout de suite, c'est-à-dire que le démarrage de Woodstock, c'est le 15 août, c'est ça?
Tout à fait.
Et l'orage, il arrive...
Le gros orage arrive le lendemain, le samedi.
Et donc on rappelle que c'est une cuvette.
Exactement, donc pour la boue c'est parfait.
Oui.
Et juste à temps pour pourrir le concert du Grateful Dead à la fin du concert de Joe Cocker.
Comment ça pourrit le concert? C'est-à-dire que les concerts se terminent plus tôt, il y a des artistes qui tombent, des scènes qui s'écroulent.
Il y a un temps d'installation supplémentaire, évidemment, dû au fait que tout glisse. Et puis bêtement, il y a des risques de court-circuit, puisque ce sont des installations électriques un peu primitives. Et du coup, avec la scène humide, il y a de gros risques de se prendre une châtaigne. Heureusement, personne n'est mort à cause de ça.
Attendez, les musiciens de Grateful Dead, quand ils approchaient des micros, ils prenaient le jus?
Je pense qu'ils devaient se prendre des châtaignes, oui, c'est obligé.
Mais comme ils étaient sous LSD, ils avaient l'impression que c'était autre chose.
Julien Bitoun, aucun mort pendant les 3 jours et demi de festival, 500 000 personnes.
A priori, 2 morts à Woodstock, un mort d'overdose d'héroïne. Et un autre mort d'un accident de tracteur.
Voilà. Est-ce qu'il y a eu des naissances aussi à Woodstock?
Un accident de tracteur, un tracteur qui lui a roulé dessus dans son sac de couchage.
Voilà. Parce qu'il était couvert de boue et le tracteur l'a pas vu.
Bon, on laisse les morts, est-ce qu'il y a eu des naissances à Woodstock?
Ah bah oui, c'est mieux.
Alors, a priori, il y en a eu entre 1 et 4. Mais étant donné que c'était des hippies, en termes d'actes de naissance à la mairie, c'était pas forcément au carré.
Oui, donc, le recensement n'était pas très clair. Ouais.
À ce jour, en fait, on n'a toujours pas retrouvé de Woodstock Baby avéré.
C'est très drôle. En revanche, il y en a eu peut-être quelques-uns qui sont nés 9 mois après.
Ça, c'est
ce que je veux
tout
dire.
À fait probable.
Il y a de fortes chances. Dans votre livre Woodstock Live, Julien Bitoun, qui est publié aux éditions Grune, vous dites que, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, que c'est un peu la dernière fois que le rêve hippie a tenu ses promesses. Pourquoi?
Alors, d'une part, parce qu'il faut le souligner, c'est assez hallucinant, c'est 500 000 personnes, donc c'est une grande ville, pendant 3 jours, et avec un taux de criminalité absolument nul. Il n'y a aucun meurtre à Woodstock, il n'y a pas d'agression, enfin, c'est assez hallucinant, cette manière de vivre en communauté. Et puis évidemment, il y a le côté négatif du rêve hippie, qui arrive le 6 décembre 69 à Altamont, qui se veut c'est un autre festival justement monté par les Stones, qui se veut la réponse de la côte ouest à Woodstock, ouais. Et là où Woodstock était donc la côte est, ouais. Et ce festival est très mal organisé, encore pire que Woodstock. C'est des Hells Angels, donc un gang de bikers qui se charge de la sécurité. Et là, dans ce concert, il y a un mort par poignard.
Et d'ailleurs, je crois que c'est un des fans des Stones, c'est un jeune black qui arrive, qui veut s'approcher de la scène, c'est ça? Comment
c'est ça,
ça se passe,
Meredith Hunter, ouais. Qui visiblement n'était pas dans un état très net non plus, qui avait, selon certaines images, un flingue à la main. Donc voilà, c'est très compliqué de savoir ce qui s'est passé, s'il y avait un côté légitime défense ou pas. De l'extérieur, ça ressemble quand même effectivement à un crime raciste. Quoi.
Le fermier qui prête comme ça son champ de Woodstock, il le récupère comment, son champ?
Dans quel état?
Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que c'est devenu une zone sacrée? Est-ce qu'on peut aujourd'hui le visiter
C'est une zone de pèlerinage, carrément, ouais. Effectivement. Et je pense que financièrement, ici, est tout à fait retrouvé.
On y voit quoi dans ce champ maintenant aujourd'hui?
C'est un champ.
C'est tout. C'est un champ. Mais il y a des traces de pas dans la boue.
Mais si tu as été conçu à la mi-août 1969 aux États-Unis, tu vas à Woodstock.
Voilà,
et puis, tu te demandes si c'était pas.
Faut y aller et ressentir l'esprit. C'est tout.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et toujours avec nous, Julien Bitoun, pour découvrir la légende de Woodstock. Vous connaissez Woodstock par cœur, vous publiez un livre aux éditions Grune. Donc, qu'est-ce qui joue là et c'était quel jour?
Ça, c'est Creedence, évidemment, le samedi. Et
voilà,
c'est la
de l'aveu du groupe, un de leurs pires concerts.
Ah ouais,
qu'ils ont toujours refusé, qui sortent sur les CD de Woodstock et sur les vidéos de Woodstock.
Ils ont mal joué ce jour-là.
En fait, John Fogerty, le chanteur, dit que, parce qu'il passait juste après le Grateful Dead, dit que le Grateful Dead a endormi leur public. Et du coup, ils ont été obligés de le
réveiller. Il y avait des mesquineries à Woodstock aussi, alors. Ah ouais, quand même.
La scène s'était affaissée au moment du concert.
À cause du matos du Grateful Dead.
Ouais, qui était trop lourd.
Qui était trop lourd, ouais. Exactement.
Pourquoi il n'y a pas eu de Woodstock l'année d'après? Vous voyez, pourquoi c'est pas devenu un festival récurrent avec un tel succès?
Tout simplement parce que financièrement, ils se sont plantés lamentablement. En fait, ils se sont retrouvés avec des dettes qu'ils ont remboursées pendant une dizaine d'années à peu près.
Ouais.
Y a uniquement les droits dérivés via le film l'année suivante qui ont permis de faire rentrer un peu d'argent.
Oui, parce
mais,
que c'était
devenu
gratuit.
Le festival lui-même, c'était une perte nette.
Et pourtant, on a réorganisé un Woodstock 25 ans après 1969. Comment c'est ça s'est passé, ce festival?
Alors là, pour le coup, Woodstock 94, c'était un gros succès.
C'était où?
C'était là, pour le coup, à Woodstock.
Ah.
Et il y a eu 550 000 spectateurs, donc ils ont carrément dépassé le chiffre d'époque.
Mais c'était plus sage.
Évidemment, c'était beaucoup plus sage, ouais. Et beaucoup plus encadré, et beaucoup plus sponsorisé.
Les têtes d'affiche?
Aerosmith, Nine Inch Nails qui en plus ont joué couvert debout, donc visuellement c'est une image qui reste assez forte.
Il y avait Iggy Pop aussi, non?
Bien sûr, ouais. Les Red Hot Chili Peppers, ouais. Enfin c'était un beau festival.
Est-ce qu'il y en aura un nouveau Woodstock?
Bah oui, on fête les 50 ans.
Ça paraît inévitable, étant donné la mystique qui s'est développée autour de ce festival. Ça paraît inévitable qu'ils ne profitent pas des 50 ans pour le faire. Donc effectivement, là pour l'instant, il n'y a pas de détails, mais ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'ils le fassent.
Bon, bah on suivra ça cet été sur RTL à la mi-août, puisque c'était le 15 août 69, l'ouverture du festival de Woodstock. Woodstock Live, votre livre est publié chez Grunt. Julien Bitoun, merci beaucoup.
Merci à vous.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.